RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, toujours en partenariat avec l'Ordre de Malte France, une association qui agit en France notamment pour accueillir, secourir et soigner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l'exclusion, comme on en a parlé dans un premier temps. On va regarder de plus près les différentes actions possibles avec l'Ordre de Malte et vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous avez un lien de près ou de loin avec cette association, venez nous parler de votre engagement. Si vous avez peut-être pu bénéficier un jour d'une action de l'Ordre de Malte, ça nous intéresse également. 04 72 38 20 23 pour venir discuter avec nous à l'antenne par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour discuter avec nous jusqu'à 11h, trois invités. Alors toujours avec le docteur Patrick Fiévert. Rebonjour docteur.
Bonjour.
Médecin référent santé solidarité, pour l'Ordre de Malte France. À vos côtés, Barbara Charmette. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous dans cette émission. Vous êtes psychologue clinicienne du travail. Vous faites des maraudes également avec l'Ordre de Malte dans la délégation des Yvelines. Et puis le docteur Claudine Freiermuth. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également à vous. Vous êtes médecin anesthésiste. Vous faites des consultations médicales pour l'Ordre de Malte France et des maraudes dans le 92, également du côté d'Antibes, au centre d'urgence sociale. Voilà, trois missions un peu différentes, tous les trois, ce matin dans cette émission. Docteur Patrick Fiévert, on rappelle l'une des actions majeures de l'Ordre de Malte, ce sont ces fameuses maraudes. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu en quoi elles consistent, ces maraudes?
En quoi consistent les maraudes? Donc le principe, c'est le principe d'aller vers, hein, d'aller à la rencontre des personnes. Et donc la maraude, c'est une équipe qui comporte en général donc un médecin, une infirmière, un chauffeur, éventuellement un psychologue ou une psychologue, puisque j'en ai une en face de moi, et c'est le cas dans les Yvelines. Et cette équipe, se rend sur signalement auprès des personnes de la rue avec un véhicule qui est équipé pour assurer des soins. C'est-à-dire qu'on est en mesure de faire des pansements, d'examiner, la particularité aussi de nos activités médicales, c'est que on essaye de faire une prestation la plus complète possible, qui va de la prise en charge, le diagnostic de la pathologie, jusqu'au traitement. C'est-à-dire on délivre les médicaments à la personne. Donc on a des médicaments dans nos camions et ces médicaments, on les obtient donc grâce à une collaboration avec la pharmacie humanitaire internationale.
Pourquoi on rejoint l'Ordre de Malte? Pourquoi vous, docteur Patrick Fiévert, je reste un peu avec vous quelques instants, mais qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'association?
Écoutez, d'abord c'est une démarche personnelle, je dirais spirituelle. Et c'est c'est une sortie de messe, une sortie de messe où on y a un petit pot qui est prévu. Et puis à l'occasion de ce pot, j'ai rencontré un couple qui faisait des maraudes depuis plusieurs années dans les Hauts-de-Seine et qui m'ont dit mais t'es médecin. Tu veux pas venir avec nous? Et je réfléchissais déjà beaucoup. J'étais à la retraite et je me dis, il faut que je reprenne une activité. J'avais travaillé pour Médecins du Monde. Je me dis, il faut que je reprenne une activité de ce type. Et j'ai dit tout de suite oui. Laissez-moi le temps quand même de demander à ma femme si elle est d'accord.
Madame a dit oui.
Le jeudi de cette semaine-là, j'étais déjà dans le camion avec le médecin responsable de la maraude. Et j'ai continué. Voilà, ça fait 4 ans que ça dure.
Et vous êtes engagée. Barbara Charmette, vous êtes, je rappelle, psychologue clinicienne du travail. Même question pour vous. Pourquoi vous avez rejoint l'Ordre de Malte?
Pourquoi j'ai rejoint l'ordre de Malte? Alors il y a une histoire de famille aussi, oui. comme le docteur Chévé. Mmh. Mon fils est secouriste au sein de l'ordre de Malte depuis plusieurs années et en 2022 il me dit ah je crois que dans la délégation des Yvelines, Hervé de Gosbriand et Siméon Monrose sont en projet de créer une maraude médicalisée et peut-être que ce service pourrait t'intéresser. Et je lui dis, oui, effectivement. Et donc, je suis rentrée en contact avec Hervé. J'ai proposé mes services et ça a été le début de magnifiques aventures de rencontres, de partage. Et donc, d'aller, comme le disait le docteur Chévé, d'aller vers, d'aller au-devant des plus vulnérables et d'apporter très humblement sa petite pierre
à
l'édifice de préservation de la dignité humaine, en fait.
Docteur Claudine Freyermeuth, vous étiez médecin anesthésiste, hein. Maintenant vous êtes, oui, à la retraite, je crois. Qu'est-ce qui vous a mené vers l'ordre de Malte?
Ça a été une rencontre fortuite, tout à fait fortuite, puisqu'on m'avait demandé de participer à un audit pour l'hôpital de Bethléem, l'hôpital géré par l'ordre de Malte. Et donc, je suis allée à une réunion à l'ordre de Malte et j'ai rencontré le docteur Guy Lecieux qui s'occupait de la maraude médicale, qui a géré et créé un peu la maraude médicale. Nous avons sympathisé, nous avons beaucoup parlé et il m'a laissé son adresse en me disant « Dès que tu prends ta retraite, j'aimerais bien ». Effectivement, donc je l'ai contacté dès que j'ai pris la retraite. Nous avons fait une maraude ensemble qui a été assez houleuse, puisque nous avons eu un monsieur qu'il a fallu déshabiller complètement. Enfin, c'était assez compliqué, mais j'ai passé cet examen, si vous voulez, avec plaisir. Et nous avons continué à collaborer. Nous avons collaboré pendant plus de 10 ans ensemble.
Et vous continuez donc vraiment
Et je continue les maraudes et j'ai émigré vers le sud pour des raisons personnelles. Et maintenant, j'habite la ville de Cannes et donc je travaille à Antibes.
Et merci vraiment à tous les trois d'être avec nous jusqu'à 11h dans Je pense donc j'agis. On a Georges qui nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Georges.
Bonjour. Je vous appelle parce que j'appartiens aussi, enfin, à l'ordre de Malte.
Oui.
Et je travaille avec la délégation du Maine-et-Loire. Et donc je voulais intervenir parce que j'ai un ami, donc, qui est le chanteur que vous passez souvent sur votre radio, qui est Grégory Turpin.
Grégory Turpin, oui.
Il s'occupe aussi dans son quartier, dans le 12e arrondissement, de SDF et de choses de ce genre. Donc, et qui travaille et qui est bien sûr associé à l'ordre de Malte maintenant. Voilà.
Pourquoi
et
vous
je
vous
voulais avez... aussi rendre ouais. hommage à une amie qui est disparue il y a quelques temps, qui avait 95 ans et qui était une membre très très importante dans le Maine-et-Loire de l'ordre de Malte et qui a beaucoup travaillé en tant qu'ambulancière pour aider, bien sûr, différentes personnes.
Merci beaucoup, Georges, pour votre appel ce matin dans Je pense donc j'agis et pour cet hommage. Vous dites du nombre. Alors ça, je trouve que c'est un mot qui est très très fort, docteur Patrick Chévé. Ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue dans la première partie de l'émission.
J'ai pas entendu le début de votre question. La médecine de l'ombre, c'est ça?
Oui. Ouais. Est-ce que vous considérez médecin de l'ombre, vous?
Je sais pas. Pour moi, ce terme un peu flou, je dirais.
C'est un peu sombre.
On n'est pas dans l'ombre, on est plutôt dans la lumière, je trouve. On a beaucoup de joie, en fait, à faire ces maraudes et à rencontrer les personnes de la rue. On a des échanges qui sont parfois assez exceptionnels. Et on peut tous en témoigner, hein. Non, je pense que c'est une médecine de la lumière. Voilà.
Vous êtes d'accord avec ça, Barbara et Claudine?
Tout à fait. Tout à fait. Nous ne sommes pas dans l'ombre.
Ouais. Dans la lumière.
Donc, on est dans la lumière.
Bon, oui, la lumière que nous procure effectivement toutes les rencontres et le partage et les relations créées par les espaces d'échange de paroles qu'on arrive à mettre en place, comme vous le disiez au début de l'émission, c'est... Il y a effectivement la dimension du soin médical, du soin physique. On va effectivement penser les plaies, mais on va penser toutes les plaies physiques et puis celles qui se voient un petit peu moins par nos échanges, par notre écoute, par notre humble présence, le fait d'être là, d'être dans le camion, dans cet espace clos, ça peut inviter aussi les bénéficiaires, surtout nous les demandeurs d'asile, puisque on met en place dans les Yvelines des points médicaux en fait au pied des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, les migrants. Et voilà, vous le savez, ils ont trimballé une histoire, un vécu très douloureux et qui va se manifester par une somatisation. Et ça leur fait du bien. Enfin, on pense que ça leur fait du bien, effectivement, d'échanger sur leur parcours, sur ce qu'ils ont vécu et sur l'anxiété aussi, leur angoisse de la situation actuelle dans laquelle ils vivent.
Est-ce qu'on doit se former? Oui, docteur.
Si je peux intervenir, Patrick. Oui. En fait, je rejoins complètement les propos de Barbara. Et je trouve que on ne fait pas simplement. Enfin, il ne faut pas qu'on fasse simplement de la délivrance de soins. Il faut qu'on invente une médecine, enfin, ou en tout cas qu'on pratique une médecine.
D'accompagnement.
Qui est une médecine du corps, mais une médecine qui touche l'âme également. Bon, on n'a pas le pouvoir de guérir les âmes, mais au moins on peut toucher l'âme des personnes et leur apporter un réconfort. C'est important, leur donner le sentiment d'exister. Voilà.
Quand on décide de s'engager à l'Ordre de Malte, notamment à l'Ordre de Malte France, docteur Claudine Freyermuth, est-ce qu'on se forme également à l'Ordre de Malte?
Oui, bien sûr. Oui. On se forme à l'Ordre de Malte, on se forme aussi à cette médecine très particulière qui est la médecine de la rue.
De l'allée vert, ouais, aussi.
De l'allée vert, c'est une pathologie. D'autant plus, moi, j'ai fait, dans ma carrière d'anesthésiste réanimateur, des sorties de SMUR. Donc, c'est vrai que la médecine d'urgence de la rue, je la connaissais, mais c'est pas du tout la même médecine d'urgence. On est dans une certaine urgence aussi dans la rue. Je reviendrai pas sur l'urgence chez les SDF. Je crois qu'il faut se former. Oui, c'est important. Il faut se former, bien sûr, connaître l'Ordre de Malte, mais connaître également toutes ces pathologies qui sont un petit peu différentes. Et c'est assez difficile parce qu'il y a peu de publications. Donc, des fois, on se forme un peu sur le terrain. Moi, je me suis beaucoup formée avec le docteur Guy Lecieux, qui m'a beaucoup aidée au début, puisqu'il avait déjà une large expérience, avec tous les collègues qui étaient autour de lui, avec les infirmières, avec... toutes les personnes qui étaient lors des maraudes.
Barbara Charmette, pardon. Vous êtes donc psychologue clinicienne. Vous avez plutôt l'habitude d'avoir des patients qui viennent vous voir, peut-être en cabinet ou voilà. Je ne veux pas forcément rentrer dans le détail. Là, c'est totalement différent. L'allée vert, pour le coup, c'est un autre type de mécanisme.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. Il y a peut-être une posture différente à trouver, la bonne posture. Enfin, on essaye, on expérimente, et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est d'avoir grâce à l'Ordre de Malte, grâce à l'uniforme aussi qu'on revêt, qui nous donne une place particulière, une responsabilité, une appartenance au collectif aussi, ben ça nous permet d'agir, d'instaurer une pratique différente de celle qu'on met en place dans notre quotidien. Et effectivement, d'aller vers, ben ça suppose des qualités d'écoute, je dirais, et probablement de patience aussi. C'est-à-dire qu'on va attendre, on va... des fois aussi être silencieux, être à côté de l'autre, du bénéficiaire, et puis le laisser venir à nous et par, je dirais, aussi l'entremise du médecin, du chauffeur, et les relations vont se tisser petit à petit. Et du coup, je rejoins ce que disait le docteur Claudine, et j'ai peur d'écorcher votre nom, donc je vais vous appeler.
C'est ça, je prononce
merci.
Bien.
Ouais.
Je suis entraînée toute la nuit.
sur la transmission et la formation sur le terrain, sur le collectif justement et tous ces moments qu'on partage avec le médecin en binôme dans le camion et avec le chauffeur et tout ce qu'on peut apprendre sur le terrain et aussi des bénéficiaires qui est particulièrement mmh. riche. Oui.
Cette patience, cette écoute, docteur Patrick Chevet, évidemment c'est au cœur de votre rôle, vous, à l'Ordre de Malte, mais ça s'apprend, ça se pratique également, c'est pas inné. Alors, quand on est médecin, peut-être un petit peu quand même, mais.
Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein, on ne fait pas que de la délivrance de soins.
Oui.
Aujourd'hui, la médecine est en train d'évoluer comme ça. Hein, ce qu'on constate dans la vie de tous les jours, hein, c'est la rentabilité des actes,
la consommation,
etc.
Une forme de consommation. Donc,
on est effectivement dans un mode de consommation. Le patient devient patient-client. On utilise des termes comme ça. Donc, c'est évidemment impossible de fonctionner comme ça avec les personnes qui sont dans la rue. Les personnes qui sont dans la rue, il faut prendre le temps. Hein. Donc notre objectif, nous, c'est pas de faire un nombre de consultations de plus en plus important, etc. Ce qui est important, c'est la qualité de la relation médicale qu'on va avoir. Hein. Et parfois, on va prendre une heure avec une personne parce qu'elle a énormément de choses à dire. Elle doit déposer toute sa souffrance et il faut qu'on soit là pour l'entendre. Mmh. Hein. En même temps, si qu'on soigne une plaie, il y a toute une souffrance que la personne va nous exprimer qu'il faut qu'on soit en mesure d'écouter.
C'est le docteur François Lair dans la première partie de l'émission qui nous disait sans le lien, il n'y a pas de soins. Alors ça aussi c'est très fort, je trouve, docteur Claudine Freyermuth. Ça veut tout dire, ça veut dire que il faut de toute façon réussir à créer ce lien, à créer un premier contact avec les personnes de la rue, sans forcément aller chercher tout de suite à les soigner.
Tout à fait. Soit ils viennent vers nous parce qu'ils ont un problème médical comme la douleur. Souvent, c'est la simple demande de paracétamol. Et moi, je dis souvent à mes équipes qui me disent « On peut peut-être simplement leur donner un comprimé, ça suffira. » Et je leur dis « Non, c'est une demande, c'est la douleur. Et cette douleur doit être entendue et c'est à nous de l'écouter. » Donc là, c'est à ce moment-là, il faut écouter, savoir écouter, prendre son temps. Comme disait Patrick, c'est très chronophage. Ça prend du temps, mais on est là pour ça. On est dans cette écoute qui doit être bienveillante et surtout pouvoir respecter des fois certains silences. Commencer à créer ce lien et savoir qu'il faut plusieurs consultations, plusieurs passages pour pouvoir pérenniser ce lien. Et après, on peut aborder peut-être les problèmes médicaux plus profondément.
Il est un peu plus de 10h15 dans Je pense donc j'agis. Vous l'entendez ce matin, on parle des actions de l'Ordre de Malte France. Notre partenaire pendant 2 heures, hein, ce matin, on est ravis de vous recevoir dans cette émission. Vous avez la parole au 04 72 38 20 23, tout comme Georges tout à l'heure qui est venu nous dire, venez nous parler de son engagement plutôt à l'Ordre de Malte. N'hésitez pas à nous appeler également pour nous dire un petit peu pourquoi vous vous êtes engagé, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que ça vous apporte. 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec Barbara Charmette, psychologue clinicienne du travail. Vous faites des maraudes dans la délégation des Yvelines. Et docteur Claudine Freyermuth, médecin, anesthésiste, réanimateur, bénévole à l'Ordre de Malte, notamment dans le sud, pas très loin de Cannes, et notamment à Antibes. Docteur Patrick Chevet nous accompagne également, médecin référent santé solidarité pour l'Ordre de Malte. Je crois savoir, Patrick, que vous vouliez nous parler de la spiritualité, parce que ça a énormément de sens pour vous, à la fois dans votre engagement et à la fois à l'Ordre de Malte.
Ouais, alors, je commencerai par dire que ce qu'il faut s'efforcer d'appliquer, c'est ce qui est décrit dans la parabole du bon samaritain.
Oui.
Il y a toutes les étapes de la prise en charge de la précarité. Et la compassion, la première chose, hein, donc reconnaître que la personne est souffrante et puis aller au-devant d'elle. Deuxièmement, apporter les soins. Le bon samaritain, il applique de l'huile et du vin sur les plaies. Enfin, je ne sais plus exactement avec précision, mais c'est de les traitements de l'époque. Mais c'est ce que nous, on doit faire. On commence par soigner la personne. Et puis ensuite, penser à l'hébergement, parce que la personne, il faut bien qu'elle trouve un toit pour pouvoir se sortir de sa situation. Et puis ensuite, la prise en charge sociale, puisque le bon samaritain dit « mais je reviendrai et je donne de l'argent à l'avance pour assurer la suite ». Mais je reviendrai, s'il y avait besoin, je compléterai. Hein. Donc cette prise en charge globale, c'est exactement le modèle qu'on doit appliquer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on retrouve, enfin là où ce qu'on doit appliquer à mon sens, c'est le principe des vertus, hein, de la foi, l'espérance et la charité. La foi, mais c'est l'uniforme qu'on porte avec la croix de Malte qui est inscrit dessus. Et quand on porte cet uniforme, on a en fait on est détendu. Quelque part, on porte l'amour de Dieu, hein, et qu'on vient apporter comme le plus beau présent aux personnes qu'on va rencontrer. Et donc la charité, c'est le soin qu'on va apporter à ces personnes, hein, et la compassion qu'on va avoir pour eux. Et puis l'espérance, c'est d'abord dire aux personnes qu'ils existent pour nous, alors qu'ils souffrent de non-existence, mais aussi, si on peut, leur dire ou leur faire comprendre qu'ils existent aux yeux de Dieu. Et que le regard que le Seigneur porte sur eux est un regard d'amour, et que personne ne peut leur enlever ça, et que c'est pour l'éternité. Et voilà, c'est ça, à mon avis, c'est ça le sens de ce qu'on fait. Et c'est parfois perçu tout à fait par nos bénéficiaires. Et il y a des moments qui sont des beaux moments d'échange, hein, et qui nous amènent à l'espérance. Voilà un petit peu comment je pense personnellement, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, mais je pense que Barbara est d'accord et je la vois acquiescer devant moi.
c'est intéressant,
et c'est ça qui fait que c'est de la médecine de la lumière.
Si on creuse un petit peu plus l'ordre de Malte, donc en France, vous êtes une association, on va dire, un peu indépendante, reconnue d'utilité publique en France. Vous êtes quand même affilié à l'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Donc c'est vraiment le point très historique qui dépend. Enfin, cet ordre dépend, lui, du Saint-Siège, donc du Vatican. Avec une devise en latin. Alors, j'ai essayé de bien prononcer. Je suis pas très bon. Alors, n'hésitez pas à me reprendre. Tuitio fidei et obsequium pauperum. Est-ce que c'est ça?
Ça veut dire défense de la foi et service des pauvres. Ouais. Défense de la foi et service des pauvres.
J'ai posé une question un peu cash. Est-ce qu'il faut avoir la foi pour s'engager à l'ordre de Malte, Barbara Charmette.
C'est joli.
Oui, c'est joli. J'ai fait un mix entre les deux. Est-ce qu'il faut avoir la foi?
Est-ce qu'il faut avoir la foi? Ça rejoint les propos du docteur Fievé. Oui, la foi, c'est l'espérance, l'espérance de la lumière, l'espérance de l'amour qui nous traverse et qu'effectivement, dont on se laisse traverser aussi lors de nos maraudes. Et c'est toujours. Toujours des moments, où on expérimente sa foi en l'autre aussi, sa foi en l'humain, sa foi en l'homme, où on peut expérimenter la fraternité aussi et notre appartenance à un commun. Et l'uniforme de l'ordre de Malte, il nous aide à ça aussi, je trouve. Paradoxalement. il en tout cas, je vais parler à la première personne, il, oui. il m'aide à me rapprocher des pauvres, comme vous le disiez, il m'aide à me rapprocher des plus vulnérables et à me mettre à leur service, en fait. Et c'est une joie de le faire, c'est une grâce, ce sont des grâces qu'on reçoit à chaque fois qu'on peut être au service des plus vulnérables, donc par l'entremise de cet uniforme de l'Ordre de Malte.
Même question pour vous, docteur Claudine Freyermeuth. Alors, je ne veux pas qu'on entre sur un terrain trop privé, hein, bien sûr, sentez-vous libre de répondre ou non, mais est-ce que vous avez la foi? Est-ce que c'est nécessaire pour rejoindre l'Ordre de Malte, ou ça permet d'aller un peu plus rapidement à l'essentiel?
Je pense que c'est nécessaire et peut-être pas le mot, mais je crois que c'est indispensable d'avoir la foi quand on est à l'Ordre de Malte. Bien sûr, quand on s'engage comme bénévole, on nous demande de signer une charte, mais on ne nous demande pas des preuves de notre foi. Donc on nous laisse libre de faire de notre pensée. Mais je crois que l'Ordre de Malte est un ordre, vous l'avez dit, sous la direction du pape François. Et je crois que nous avons un pape qui est très près des pauvres. Et quand on relit l'encyclique Fratelli Tutti, on sait qu'il a lancé un message vers les plus pauvres. Et je crois que c'est vraiment ce qui doit nous motiver. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je suis très proche de ces pensées. Et je pense que Dieu est amour, et c'est cet amour qui doit nous motiver. Parce que je crois qu'on a la foi, mais ce qui est important, c'est l'amour de l'autre, l'amour du prochain.
On va accueillir rapidement Marie, oui. au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Melchior. J'écoute votre émission depuis ce matin.
Oui.
Et je vous parlais des maraudes dans la rue. Or, moi, je veux parler de mon cas. Je ne suis pas dans la rue, mais je suis une personne âgée, handicapée. Je ne peux presque plus marcher. Je suis malvoyante. Je suis sur chaise roulante. Et je suis seule, voilà. Alors, j'aimerais avoir un contact avec des gens... sortir, qu'on me sorte un peu dans mon quartier sur ma chaise roulante. Et c'est pour ça que je vous pose la question si l'Ordre de Malte ne concerne que des personnes dévouées pour les gens dans la rue.
Les personnes de la rue. C'est une bonne question, Marie. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir pris votre téléphone et de nous avoir appelé ce matin. Pour nous parler de votre situation, docteur Patrick Chévert, en quelques mots.
Donc là, je réponds parce que c'est effectivement une de nos préoccupations aujourd'hui. C'est cette précarité invisible. Sont des personnes qui effectivement vivent souvent âgées, souvent avec des problèmes de santé plus ou moins sévères, vivent dans l'isolement, souvent avec une grande pauvreté. Et ils sont les oubliés du système, complètement. Et on développe aujourd'hui des prises en charge vers ce type de personnes, en particulier en milieu rural, hein, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des habitats insalubres.
Ouais.
Et les expériences qu'on a commencées, dans le sud de l'Eure, par exemple, ont permis de découvrir des choses terrible.
On va continuer d'en parler juste après une petite pause qu'on marque tout de suite ensemble, docteur Patrick Chévert. On se retrouve avec vous deux, Barbara Charmette et docteur Claudine Freyermeuth. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous parler de l'Ordre de Malte et de vos engagements, ou directement dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Allez, 10h30 dans Je pense donc j'agis. On va écouter de la musique. Ça va vous laisser le temps de nous appeler pour nous parler de vos engagements au sein de l'Ordre de Malte France. Racontez-nous pourquoi vous avez rejoint l'association. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie personnelle? 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Heureux vous les pauvres, vous les gens de rien, vous que l'on écarte d'un geste de la main. Heureux vous les faibles, vous qu'on ne voit pas, vous que l'on méprise, les montrer du doigt. Heureux êtes-vous. Heureux vous les justes, vous qui avez faim de voir tous les hommes desserrer les poings. Vous les artisans de paix, de douceur, vous les bienveillants, les humbles de cœur. Heureux êtes-vous.
Grégory Turpin, en ce jeudi matin, heureux êtes-vous?
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos trois invités jusqu'à 11h pour parler de l'Ordre de Malte, Barbara Charmette, Dr Claudine Freiermuth et Dr Patrick Fievet. Vous avez écouté, Dr Patrick, j'ai vu cette chanson de Grégory Turpin. Les paroles sont assez de circonstances ce matin sur « Heureux êtes-vous ».
Tout à fait. Il parlait de lumière aussi. Hein. Vous êtes la lumière du monde. On se retrouve bien dans ces termes-là. Oui.
Barbara Charmette.
Oui, en effet, hein, on parlait de joie, donc de Oui, de lumière et de je reprends les termes du docteur Fievé, du sentiment d'exister aussi chez les personnes que l'on rencontre par le regard, le regard en toute humilité qu'on va porter sur eux et la relation, le lien que l'on va créer. Oui.
Alors, on entendait juste avant la musique Marie tout à l'heure qui a témoigné et qui nous disait voilà qu'elle rencontrait une situation un peu compliquée d'isolement. Elle est en situation de handicap. C'est une personne âgée. La question au fond de tout ça, c'est est-ce que l'Ordre de Malte a des actions diverses et non pas uniquement. Alors, c'est déjà bien nécessaire et très utile pour les personnes de la rue, mais également pour tout un chacun, docteur Claudine Freyermuth.
Je laisserai plutôt parler du docteur Fievé, qui est plutôt responsable.
Oui, effectivement, il y a vraiment tout un champ tout un spectre d'activités très étendu à l'Ordre de Malte qui sont de l'ordre de la solidarité. La médecine, les soins médicaux ne sont qu'une partie. Des actions de l'Ordre de Malte. Et il y a par exemple des bénévoles qui vont visiter les personnes dans les EHPAD. Parce que je pense à la personne qui est intervenue tout à l'heure, mm-hmm. et qui vont éventuellement aussi visiter des personnes âgées.
J'interromps Patrick, mais je dis par exemple à Cannes, avec l'Ordre de Malte, nous faisons des goûters dans des EHPAD. À peu près deux fois par mois dans les différents EHPAD de la ville de Cannes, avec plusieurs bénévoles, chacun fait des gâteaux et tout ça. Donc on organise des goûters pour les personnes âgées, avec parfois la présence d'enfants pour amener un peu d'animation.
C'est important de diversifier comme ça les activités. Enfin, les activités, c'est un grand terme, les activités, plutôt les actions et les initiatives. Vous sentez une certaine demande quand même, un besoin?
Oui.
Oui, il y a un réel besoin. Oui, c'est évident qu'il y a un besoin. J'ai évoqué tout à l'heure le problème du milieu rural avec des personnes isolées. En Saône-et-Loire, là, on est en train de mettre en place un centre de soins, mais est accolé à ce centre de soins des distributions de vêtements, de la distribution alimentaire, avec c'est même plus de l'aller vers, c'est de l'aller chez, c'est-à-dire qu'on va porter chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles sont n'ont pas les moyens, elles n'ont pas moyen de transport, on leur apporte des colis alimentaires ou on leur apportera du soin bientôt. Donc voilà jusqu'où on essaye d'aller. Et on essaye d'identifier les besoins et puis de répondre. Toujours le problème de l'adaptation aux besoins.
Docteur Claudine? Non, Barbara?
Je pense que si on a besoin de bénévoles.
N'hésitez pas à prendre la parole quand vous voulez, vraiment.
Je rebondirai sur ces paroles parce que tout ça sont des activités qui prennent du temps et malheureusement, une journée n'a que, j'allais dire 24 heures et on ne peut pas tout faire. Bon, moi je prends l'exemple, je fais deux consultations par semaine déjà pour l'Ordre de Malte, des goûters de Malte. Je peux difficilement faire, j'ai besoin de bénévoles. Je lance un appel, je veux dire, surtout aux gens qui habitent la ville d'Antibes. Nous avons besoin de bénévoles.
Voilà. Il y a un vrai besoin de bénévoles. On a Marie-Claire au 04 72 38 20 23. Marie-Claire, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, moi je suis âgée maintenant, mais il y a peut-être des jeunes qui pensent encore comme moi, des jeunes au grand cœur, mais qui ont peur des microbes ou qui ont peur d'être contaminés. Et je voudrais savoir concrètement comment vous faites, vous, les servants, pour rester en bonne santé. Voilà.
C'est une bonne question.
Pour la personne toute seule, là, dans les paroisses, il y a des associations, Saint-Vincent-de-Paul, des communautés religieuses, des pauvres qui viennent à domicile. Voilà, pour les personnes isolées.
Merci beaucoup de le dire pour la société de Saint-Vincent-de-Paul et merci Marie-Claire pour votre question sur l'hygiène, tout simplement, la contamination. Docteur Patrick Fievé, peut-être je me tourne vers vous sur cette question. Qui est légitime, notamment depuis le Covid, je pense.
Oui. Oui, alors c'est assez difficile de rendre compatible l'hygiène et la relation.
Bah oui.
Voilà. Quand on porte un masque, déjà, on cache une partie de son visage et toute la gestuelle est très importante, en fait, dans la relation. On peut pas mentir avec les gestes. Donc, les personnes voient très bien si on a une approche qui est authentique et humble. Voilà. Oui, on prend les précautions quand on va examiner la peau d'une personne et qu'on a une suspicion de gale, bien entendu, on va prendre toutes les précautions nécessaires. Donc on va mettre une surblouse, on va prendre des gants pour examiner la peau. Bon, et puis après, on se désinfecte avec le gel hydroalcoolique, hein, et puis on nettoie aussi l'espace de soins. Hein. Donc, moyennant quoi, je rassurais la personne qui est intervenue. Moi, j'ai jamais été contaminé ni par un parasite ni par un microbe à l'occasion de ces activités. Hein.
Mais c'est une question intéressante parce que ça peut être un frein aussi, peut-être pour des personnes qui souhaitent vraiment s'engager, qu'ont la main sur le cœur, mais qui parfois entendent ici et là, c'est peut-être pas très bien pour toi. Bon, donc c'est bien de répondre à ces questions. Docteur Claudine, vous vouliez rebondir, je crois.
Oui, je pense que, il faut former les équipes. Oui. Lorsqu'on a des jeunes bénévoles on essaie de leur enseigner un minimum de gestes, de porter des gants. Par contre, c'est vrai qu'on évite maintenant la poignée de main. Avant, on disait, il faut serrer la poignée, il faut donner une poignée de main aux gens dans la rue, c'est important. Après, avec le Covid, on a abandonné la poignée de main. Et je pense qu'on peut l'abandonner et avoir d'autres gestes de fraternité. C'est pas un problème. Et puis, il faut former des équipes. Je crois que c'est important. Chaque jeune qui viendra, chaque personne qui viendra sera formée par les plus anciens. Et le risque est très, très faible.
Une formation qui
aura... Le risque de convention. Oui. Qui se fera au fil des maraudes, au fil du temps.
Oui. Qui est nécessaire, et ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais qui peut durer combien de temps? C'est assez divers?
C'est assez divers. Beaucoup de jeunes qui viennent vers nous ont déjà fait du secourisme. Donc, certains ont fait des formations, puis on apprend très vite.
Je voulais revenir sur les besoins en bénévoles.
Oui, oui.
Parce qu'on a aussi besoin de médecins.
Ah.
Et on a aujourd'hui à peu près 250 bénévoles médecins.
Dans toute la France?
Qui sont beaucoup des médecins retraités, donc qui vieillissent et qu'il faut renouveler, bien sûr. Donc on a des besoins. On voudrait développer, par exemple, dans le Val d'Oise, une maraude médicale, et on n'a pas aujourd'hui de médecins bénévoles pour le faire. Donc c'est très dommage, parce qu'il y a un réel besoin. Alors je voulais dire aussi que, pour rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce qu'il faut avoir la foi pour... les bénévoles, on accueille les bénévoles, quelle que soit leur origine, leur culture et leur religion. À partir du moment où ils sont en accord avec la charte de l'ordre de Malte, qui sont les principes fondamentaux humanitaires, on a des médecins qui sont protestants, on a des médecins musulmans, on a des médecins juifs, Donc on se retrouve tous dans cette foi en l'homme, dans cette envie de donner. Voilà. Ouais.
Barbara Charmette, quelle est votre mission, vous, en tant que psychologue clinicienne lors des maraudes?
Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est essentiellement une mission d'écoute, de création d'un cadre sécurisé, sécurisant pour permettre à nos amis bénéficiaires de pouvoir s'exprimer, de déposer leurs souffrances, leurs douleurs, et puis aussi je fais humblement, faisant fonction d'infirmière, dans des gestes simples, et surtout dans le fait de porter assistance aux médecins dans leur gestes et de les accompagner.
Donc un vrai rôle d'écoute, d'écoutant, et puis également un suivi ou pas, un suivi psychologique qui est nécessaire avec des personnes peut-être que vous avez envie de revoir.
Alors, le suivi psychologique n'est pas formalisé aujourd'hui en tant que tel. Après, c'est vrai que lorsqu'on rentre lorsque nos participations dans ces maraudes sont ritualisées, forcément qu'on va on va instaurer aussi une régularité dans les relations qui peut s'apparenter à un suivi. Effectivement, après les bénéficiaires sont aussi accompagnés en parallèle par des psychologues qui font partie des organismes qui gèrent les centres d'hébergement, les centres d'accueil, et on travaille bien évidemment en coopération avec ces professionnels de l'écoute et aussi avec les assistants sociaux, bien sûr dans le respect de la confidentialité de ce que nous livrent les bénéficiaires. Donc oui, le suivi se fait comme ça, effectivement.
Oui, c'est ça.
On en parlait tout à l'heure avec avec Claudine dans la nécessaire on va dire la nécessité d'un travail en pluridisciplinarité. Alors voilà, on travaille déjà à plusieurs dans les camions, mais aussi après avec les organismes sociaux, avec les organismes aussi municipaux. Il y a un gros travail qui est fait par les équipes pour tisser des liens et permettre justement aux équipes de l'Ordre de Malte de s'insérer et de répondre à des besoins. Donc voilà, le travail en coopération est très important.
Oui, c'est important de ne pas travailler en silo, mais vraiment de pouvoir échanger avec d'autres, peut-être d'autres associations aussi, d'autres organismes.
C'est très important et nécessaire d'avoir une approche pluridisciplinaire, multidisciplinaire. Et ça, c'est l'avantage que j'ai en travaillant à l'accueil à l'urgence sociale d'Antibes. C'est d'être dans un centre géré par le CCAS et où il y a des travailleurs sociaux. Et nous, on est en permanence, on va les consulter, on parle des dossiers ensemble. Tout ça, bien sûr, avec l'accord du patient et souvent sur la demande du patient. Donc on a vraiment un rôle, c'est important de travailler avec les assistants sociaux, avec les travailleurs sociaux, avec les autres organisations, avec le CEGID, avec les addictologues, avec tous ceux qui prennent en charge ce public. Je crois que c'est indispensable. C'est même pas nécessaire, c'est indispensable.
Oui, docteur Patrick.
Oui, je pense que, c'est un point très important. Je crois que on n'est pas seul au monde. L'Ordre de Malte doit être intégré ses actions dans un système de soins qui existe. Il faut en amont qu'on ait des contacts avec des travailleurs sociaux pour nous adresser ou nous signaler les personnes. Et puis, évidemment, le SAMU social, le 115. Et puis, en aval. Mais il faut être aussi capable d'adresser quand la situation dépasse nos compétences ou nos moyens. Bien, il faut savoir l'adresser à d'autres associations pour une prise en charge en addictologie, par exemple, ou savoir adresser un centre hospitalier en ayant créé des contacts avec les 10 centres hospitaliers par l'intermédiaire de conventions, etc. Ça, c'est tout un travail qu'on fait en amont quand on met en place un dispositif médical.
On arrive doucement à la fin de cette émission, je dis bien doucement. Docteur Patrick Fievet, tout à l'heure vous nous racontiez une petite histoire, quelque chose qui vous avait vraiment marqué lors d'une maraude. Barbara et Claudine, vous n'allez pas échapper à cette question. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose qui vous a marqué, qui vous a un peu bouleversé? Vous êtes rentré chez vous le soir, vous êtes dit waouh, là j'ai vécu quelque chose d'assez fort. Claudine?
Des anecdotes, elles sont assez nombreuses, et moi je me souviens d'une anecdote qui s'était passée dans le 92, au fin fond vraiment du 92, où on s'était perdu à la recherche d'un SDF, d'un squat, et on était vraiment perdu, on savait plus où aller, et on a été abordé par l'imam de la mosquée qui était pas loin, et qui nous a aidé à trouver le ça, et qui nous a dit: vous faites un formidable travail. Je suis là pour vous aider.
Oui.
Voilà. Donc ça m'est resté, parce que je trouve que c'était vraiment dans le sens du travail qu'on fait, de l'accueil de tous. Et d'autres anecdotes, c'est un monsieur très récemment qui est venu voir un de mes collègues qui sortait d'une consultation hospitalière, je ne dirais pas où, mais qui avait été un petit peu refoulé par les urgences, qui va voir mon collègue et qui lui trouve un problème cardiaque. Il l'envoie à l'hôpital et la personne a été prise en soins urgents de cardiologie. Il est venu nous remercier en disant: grâce à vous, vous m'avez sauvé la vie. Et ça, ce sont des moments très forts. qui nous permettent de vraiment de qui nous aident beaucoup et qui nous aident à surmonter toutes les difficultés, tous les échecs qu'on a, parce que on a aussi beaucoup d'échecs.
Des échecs de quel ordre?
Des échecs de patients qui nous quittent, des échecs de patients qu'on n'a pas su tisser le lien. Parfois, souvent, on n'arrive pas à les sortir de leur addictologie, on n'arrive pas. Puis des patients parfois qu'on retrouve morts dans la rue.
Ça vous arrive?
Ça nous arrive. Ça nous est arrivé.
Et comment on réagit quand vous retournez justement à l'endroit où se trouvait cette personne qui est malheureusement partie, qui est décédée? Comment on réagit? Parce que vous parlez d'échec, pourtant vous avez essayé quand même d'établir un lien, un contact. C'est pas forcément un échec.
Je crois que pour un médecin, je veux dire, bien sûr, c'est pas un échec. J'étais médecin réanimateur et la mort, je l'ai côtoyée pendant des années. Mais on l'a toujours vécu plus ou moins comme un échec. Quand un patient nous quitte en réanimation, on sait qu'on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on a vraiment tout bien fait, à quoi on est passé à côté. Donc après, on peut en discuter en staff. Là, dans la rue, on en discute un peu entre nous. Donc on a toujours un peu ce sentiment de peut-être pas avoir tout fait. Et là, c'est vraiment, je pense, qu'il faut se recueillir. Et souvent, c'est dans la prière qu'on arrive à trouver un réconfort.
Barbara Charmette, une histoire, alors peut-être un peu plus réjouissante, mais ça fait partie quand même de la réalité de ce que vous vivez. Donc, c'est pas du tout à mettre de côté. Mais voilà, peut-être quelque chose qui vous a marqué.
Alors, j'avais en tête un moment de vie qui n'est pas réjouissant, mais en même temps je tiens tout de même à vous le partager parce qu'il est assez révélateur de l'expérience qu'on vit avec les bénéficiaires. Un sans-abri qu'on a l'habitude de côtoyer lorsqu'on fait nos maraudes médicales à Mantes-la-Jolie et qui venait de perdre sa maman et qui vient nous l'annoncer et en fait ce sont ces larmes qui m'ont marquée. Ce sont ses larmes et ses paroles d'amour pour sa maman, ses paroles de tristesse et puis la confiance du coup qu'il nous a exprimé en nous livrant ces émotions là et toute son humanité du coup qu'on a pu partager et ça c'était un moment très très fort pour moi et pour nous je pense pour les bénévoles qui étaient là ce soir le fait de se dire qu'on partage des instants de vie qui soient effectivement tristes mais plein de moments aussi heureux où on sourit hein, aussi en maraude hein, y a beaucoup de enfin il y a des rires parce que on apporte ce regard on va partager la joie de se retrouver et entre bénévoles et avec les bénéficiaires et sont voilà beaucoup d'émotions partagées.
Oui, moi je voulais rebondir sur peut-être une autre anecdote où j'ai reçu il n'y a pas très longtemps à Antibes un monsieur qui était très alcoolisé, a été arrêté par la police, menotté, enfin c'était un petit peu compliqué, qui est venu nous voir le lendemain pour nous montrer ses poignets et tout, et puis qui s'est mis à rire et tout le monde s'est mis à rire parce qu'il nous a raconté tout l'épisode avec tellement d'humour et finalement, bon je veux dire, qu'il a fait rire toute l'équipe. C'est à partir d'un événement qui est peut-être pas très amusant, mais il a tellement bien raconté et il avait beaucoup d'humour sur lui-même parce que c'est un monsieur c'est pas la première fois qu'il a affaire à la police et il le fait toujours avec beaucoup d'humour. Voilà, c'était les derniers épisodes, mais le rire a prévalu finalement.
Docteur Patrick.
C'est un monsieur qui revient très souvent nous voir.
Docteur Patrick Chevet, pourquoi parfois ça ne prend pas? Pourquoi on n'arrive pas à créer ce lien? Ça vient d'où?
Je pense que quand la personne est très déstructurée, ça fait partie d'un mécanisme de défense hein, de la personne qui n'est plus capable d'avoir le rapport à autrui. et qui est en une dépréciation d'elle-même. Et c'est là où on a une grande difficulté à recréer, à créer un lien. Et c'est vrai que il y a des situations où on est passé plusieurs fois. Je me souviens d'une femme qui était dans la rue sur une espèce de grille où il y avait un petit peu de chaleur et voilà, malgré les passages répétés, on n'arrive pas, quoi. La personne est trop déstructurée et ça devient quasiment impossible. Et ça fait partie de ces personnes dont on sait qu'elles vont, mourir sûrement assez rapidement. Parce que bon, la situation est trop, trop désespérée.
Un tel état de détresse,
De déstructuration, de non-existence. On meurt de non-existence aujourd'hui. Oui.
Il nous reste quelques minutes. Un mot pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont été peut-être touchés par vos témoignages, qui ont envie peut-être de se lancer dans l'aventure de l'Ordre de Malte. Que peut-on leur conseiller ce matin, docteur Claudine?
De venir nous rejoindre.
Oui, bon, c'est un bon conseil. Oui.
Voilà, on a plusieurs activités.
Plusieurs délégations également dans toute la France.
Plusieurs délégations dans toute la France. Et il suffit de contacter le délégué régional.
Ouais, on fonctionne par délégation départementale. Donc, pratiquement dans chaque département de France, il y a une délégation de l'Ordre de Malte.
Avec des besoins vraiment divers?
Oui.
Oui.
On a besoin de médecins, on a besoin d'infirmières, on a besoin de logisticiens, on a besoin d'accompagnants.
Oui. D'accompagnants,
Barbara.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, puisque c'était le focus d'aujourd'hui, de l'aspect sanitaire, mais il y a aussi d'autres missions d'accompagnement. On fait les Dimanches de Malte, nous, dans la délégation des Yvelines, où on accompagne des jeunes qui souffrent de handicap, qui doutent d'autisme, par exemple, et on va les sortir de leur centre et on va les faire découvrir des lieux, des musées, et ça décharge aussi leurs parents. Et ce sont des émotions, encore une fois, magnifiques et des liens qui se créent. Donc, voilà, comme le disait Dr Chevet, n'hésitez pas à aller sur nos sites internet et on a besoin de bénévoles.
Alors, en fait, tous les bénévoles sont des soignants. C'est ce que je dis. Parce que, en fait, on soigne la non-existence. Et le soin de la non-existence, c'est bien sûr du soin médical, mais c'est de la relation. On lutte contre cette maladie qui est la non-existence, c'est la grande exclusion.
Merci beaucoup d'avoir mis en lumière cette non-existence ce matin dans Je pense donc j'agis. C'était un vrai plaisir de vous entendre, docteur Patrick Chevet. Bravo d'avoir tenu 2 heures. Il y avait plein de choses à dire et on y est bien arrivé. Merci médecin référent santé solidarité pour l'Ordre de Malte. Barbara Charmette, merci également à vous. Psychologue clinicienne, vous faites partie de la délégation des Yvelines de l'Ordre de Malte. Et puis, docteur Claudine Freyermuth, merci également à vous. Médecin bénévole dans le sud plutôt et notamment dans le centre d'urgence sociale à Antibes. Rendez-vous sur le site ordredemaltefrance.org pour retrouver beaucoup plus d'informations et pourquoi pas vous engager. Prenez le temps de discerner. Merci vraiment à tous les trois. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame. À Pierre, à Clément, à Antoine, à Catherine, grosse réalisation. À Jean-Paul également, qui a permis la réalisation. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, je suis pas là. Lundi, pour la dernière semaine de Je pense, donc j'agis. Bonne journée à tous.